l'histoire très riche. Et Abraham est considéré comme un des personnages les plus importants de la Bible. Donc tout ce qui est arrivé à Abraham nous concerne et a pour nous une grande importance. Vous savez qu'Abraham a été appelé le père de la foi, le père des croyants, parce que par cette appellation, on veut simplement dire qu'il a été le premier grand personnage de la Bible qui a eu une relation avec Dieu sur la base de sa foi, de sa confiance en Dieu. Parfois, on pense que la foi en Dieu ou la relation avec Dieu fondée sur la foi est dans le Nouveau Testament, mais elle existait déjà dans l'Ancien Testament et Abraham en est l'un des tout premiers, sinon le tout premier exemple. Abraham a dû faire confiance à Dieu dès le début de sa vie. La Bible raconte que, dans le chapitre précédent, qu'un jour, Abraham, qui vivait dans le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire un peu de choses près, le sud de l'Irak d'aujourd'hui, tout près du golfe Persique, Abraham a grandi dans cette ville de Ur, en Chaldée, qui était une ville assez riche, et dans laquelle, qui avait même une certaine technologie, pas la technologie que nous connaissons aujourd'hui, mais une certaine certain art de vivre, et Abraham a dû quitter les faux dieux qu'il adorait au début de sa vie pour suivre la voie de Dieu, pour suivre Dieu, comme le dit la Bible, dans un pays que Dieu lui avait promis de lui montrer. C'est là que Abraham a dû faire confiance à Dieu pour la toute première fois. Nous verrons tout à l'heure en fin de méditation que Abraham a dû faire confiance à Dieu encore une fois dans ce texte qui a été lu il y a un instant. Abraham a dû faire confiance à Dieu en d'autres circonstances, par exemple lorsque Dieu lui a promis, alors qu'il était âgé de 75 ans et que sa femme en avait 65, Dieu leur a promis qu'un jour ils auraient un enfant. Et Dieu a mis Abraham à l'épreuve bien plus tard, lorsque cet enfant étant finalement né, selon la promesse de Dieu, Dieu a demandé à Abraham plus tard d'offrir cet enfant en sacrifice. Et nous savons comment cela s'est terminé. Comme Abraham a fait confiance à Dieu et s'apprêtait à offrir son enfant en sacrifice, Dieu ne l'a pas permis. Mais ça a été pour Dieu une occasion de voir qu'Abraham avait une totale confiance en lui. Ici, nous sommes au début de l'histoire d'Abraham. Abraham vient d'arriver en terre promise, dans la terre que Dieu lui a promis, la terre de Canaan. Et il est accompagné, comme toujours, en tout cas comme pendant la toute première partie de sa vie, par son neveu Lot, qui habitait avec lui, enfin qui habitait dans la même ville que lui à Ur, en Chaldée au début, lorsqu'Abraham a reçu l'appel de Dieu, et Lot a accepté de suivre son oncle. Peut-être dépendait-il de lui, de manière dans le domaine financier, nous ne savons pas, mais en tout cas, Lot a accompagné son oncle dans ses pérégrinations. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que Abraham et son neveu, Lot, étaient très riches. Vous savez que la Bible ne considère pas la richesse sous un œil négatif, défavorable. Dieu aime les riches comme il aime les pauvres. Certains textes laissent même entendre que lorsqu'un homme devient riche de manière honnête, c'est une bénédiction que Dieu lui accorde. Il y a sur terre des gens riches et des gens pauvres. Il y a des gens qui sont même nés, des enfants qui naissent dans des familles extrêmement riches. Et on aurait tendance à se dire, ils en ont bien de la chance. Mais il y a aussi des enfants qui naissent dans des familles très pauvres. Et certains des enfants nés dans des familles riches restent riches toute leur vie, ou deviennent encore plus riches, et les pauvres, parfois, restent pauvres toute leur vie, et vivent une vie beaucoup plus difficile sous cet angle-là. Mais il y a aussi, c'est la loi de la vie, des gens qui naissent dans la richesse et qui meurent dans la pauvreté. Des gens qui naissent dans la pauvreté et qui meurent dans la richesse. Il y a tous les cas de figure. Et cela nous montre que, et la Bible nous montre que Dieu aime autant les uns que les autres. Dieu n'aime pas moins le riche que le pauvre. Il n'aime pas moins le pauvre que le riche. Même si dans certains milieux chrétiens, on considère que ceux qui sont riches sont plus bénis par Dieu. Parce que pour certains, dans l'Église d'aujourd'hui, et dans certains mouvements chrétiens, on considère que l'homme qui devient riche est un homme que Dieu bénit. C'est une conception très particulière que la Bible ne soutient pas vraiment. Pour Dieu, ce ne sont pas les richesses matérielles qui prouvent la bénédiction. On peut être dans la bénédiction de Dieu, on peut être avec la présence de Dieu, aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté. Abraham et Lot étaient donc fort riches. Et ce qu'il y a de très particulier dans cette histoire, c'est que nous voyons que, comme ils étaient très riches, comme ils avaient beaucoup de cheptels, beaucoup d'animaux, beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs, et beaucoup de richesses matérielles, ils n'avaient plus assez de place pour vivre ensemble. En fait, il y a eu une dispute entre leurs bergers respectifs à cause de l'importance, de l'intensité des bénédictions divines. Puisque là, on voit vraiment que la richesse, dans ce cadre-là, est une forme de bénédiction divine. Il y a plusieurs aspects importants dans cette histoire. Il y a d'abord le fait qu'il peut y avoir des disputes parfois, même entre frères, et je dirais même entre croyants. Ensuite, il y a un fait très important aussi, c'est que c'est noté au verset 7, les Cananéens, après avoir dit, il y eut une querelle entre les bergers des deux, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Et nous voyons que par la suite, Abraham, d'une certaine manière, tient compte de cela. Il y a des Phéréziens et des Cananéens. Ce sont, pendant toute l'histoire biblique, les ennemis d'Israël. Les ennemis, donc, sont tout autour. Et Abraham considère que ces gens-là sont des gens qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui ne sont pas des croyants, mais il considère que leur présence les oblige, Lot et lui, à un certain comportement. La preuve, c'est qu'Abraham dit qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, juste après que le texte dit « les Cananéens et les Phéréziens habitaient là », Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre tes bergers et mes bergers, entre toi et moi, car nous sommes frères. Et je crois qu'il y a un rapport direct entre ces différentes parties du récit. Nous ne vivons pas, comme Abraham et Lot, nous ne vivons pas entre nous. Les chrétiens ne vivent pas entre eux. Ils vivent au milieu d'une société. Il y a autour de nous, d'une certaine manière symbolique, des Phéréziens et des Canaans qui ne connaissent pas Dieu, mais qui nous observent, parce qu'ils habitent là autour de nous. Abraham est conscient de cela. Nous sommes nous aussi entourés d'hommes et de femmes qui ne croient pas dans le même Dieu. Mais nous devons faire attention parce que ces gens-là nous regardent vivre et ils se demandent et ils se posent des questions en nous voyant vivre. Abraham a réagi d'une manière extraordinaire parce qu'il savait deux choses. Premièrement, que ces gens-là, ces Cananéens et ces Phéréziens, habitaient aussi dans le pays, et deuxièmement, parce qu'il s'est rappelé, parce qu'il savait qu'il avait été appelé par Dieu à vivre une vie particulière, une relation particulière avec Dieu, et qu'il était investi pour cela d'une certaine mission. Il se devait d'avoir un témoignage exemplaire. Si les Phéréziens et les Cananéens vivaient autour d'eux, c'est parce que Dieu avait appelé Abraham, et on pourrait dire, par voie de conséquence, aussi son neveu Lot, qui était avec lui. Parce qu'aux yeux des gens, ils appartenaient à la même famille. Dieu a choisi Abraham, comme plus tard, il a choisi Israël, pour qu'ils soient des témoins de Dieu au sein du monde dans lequel ils ont vécu. C'est pourquoi, lorsqu'Abraham va parler à son neveu Lot, lorsqu'il entend dire qu'il y a une dispute entre leurs bergers, et Lot, bien sûr, devait le savoir lui aussi, il a dû l'apprendre en même temps, « qu'il n'y ait point, dit-il, je te prie, de dispute entre moi et toi, dit Abraham, car nous sommes frères. » Il y a une réalité qui compte beaucoup pour les chrétiens, parce que d'abord ils sont chrétiens, parce qu'ils sont donc frères et sœurs, et aussi parce qu'il y a un monde incrédule, un monde de non-croyants qui habitent autour d'eux, ou de gens qui pratiquent une autre religion, mais qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Cela nous oblige à vivre d'une manière particulière qui correspond à ce que Jésus a dit plus tard à ses disciples, quand il leur a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est un devoir que l'Église se doit de pratiquer, pas seulement parce qu'elle est l'Église de Jésus-Christ, mais parce qu'il y a autour de nous des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui doivent le découvrir par notre comportement exemplaire. Et un peu plus tard, Jésus dira même à ses disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas parce que vous irez à l'église, pas parce que vous lirez la Bible, pas parce que vous prierez Dieu, et même si vous faites ces choses tous les jours, ce qui est normal, ce n'est pas à cela que les gens verront que vous êtes mes disciples. Mais Jésus dit, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est là que nous voyons toute l'importance de cet amour. Ce véritable amour, ce n'est pas un amour comme l'amour moderne qui fait qu'on aime quelqu'un pendant quelque temps, qu'on se dit même fou ou folle de lui ou d'elle, et que quelque temps après, on se sépare. L'amour de Dieu, dont Paul dit qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est un amour vrai, un amour qui est fondé sur Dieu, un amour qui appartient à Dieu et qui vient de Dieu. C'est pour cela que cet amour est important au sein de l'Église, parce que cet amour va montrer que l'Église est vraiment l'Église de Jésus-Christ. Abraham fait de cet amour, fait de ce lien fraternel avec Lot, la base de son raisonnement. Quand le conflit arrive entre ses bergers et ceux de Lot, conflit qui, en dégénérant, aurait pu provoquer un conflit grave entre Abraham et Lot. Mais comme nous l'avons vu il y a un instant, comme le monde est autour et les voit vivre, leur témoignage doit être exemplaire. Abraham fait de cet amour l'un pour l'autre, de cette fraternité avec Lot, une base sans laquelle rien ne peut être bâti. Abraham dit, nous sommes frères, nous ne pouvons pas nous disputer. Nous sommes frères, et si une dispute apparaît entre nous, il faut tout de suite affronter cette dispute, en comprendre les causes et résoudre le problème, aplanir la dispute. Et c'est pourquoi Abraham dit à Lot, et ça c'est assez surprenant pour nous, parce que Abraham est l'oncle, Lot est le neveu. Nous avons toute raison de croire qu'Abraham était plus âgé que Lot. Et d'une manière générale, on va dire que dans la société, en principe, l'oncle a une position supérieure au neveu, surtout si ce dernier est plus jeune. Parfois, il arrive que le neveu est plus âgé que l'oncle. C'est rare, mais ça arrive. J'ai moi-même, le plus âgé de mes neveux n'a que 8 ans de moins que moi. 8 ans, 7, oui, 8 ans. Ce n'est pas énorme. Mais en temps normal, c'est l'oncle qui doit choisir le premier. Et le neveu prend ensuite ce qui reste. On honore toujours le plus ancien. Et donc, à ce titre-là, même si c'est Abraham qui propose à Lot de choisir le premier, il me semble que si j'avais été Lot, j'aurais dit, mais tonton, c'est à toi de choisir. C'est à toi l'honneur. C'est toi le plus ancien. Choisis le territoire que tu veux, et moi je prendrai ce qui restera. Mais quand l'oncle Abraham propose à son neveu Lot de choisir, La Bible ne dit pas que Lot a hésité. Elle dit simplement au verset 10, « Lot a levé les yeux et a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, c'est-à-dire qui était bien verdoyante, c'est-à-dire qui était arrosée régulièrement par la pluie, c'est-à-dire une zone, une région qui était, la plaine du Jourdain était fertile, elle portait beaucoup de fruits, le sol portait beaucoup de fruits, rapportait beaucoup, et il est même dit que c'était comme un jardin de l'Éternel, un peu comme le jardin d'Éden où tout était verdoyant et magnifique de couleur. Lot ne s'est pas posé de questions. Lot s'est dit, après tout, c'est mon oncle qui me le propose, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de choisir. D'ailleurs, vous remarquerez avec moi que dans toute l'histoire d'Abraham, si vous la relisez, vous la connaissez sans doute déjà bien, dans toute l'histoire d'Abraham, c'est toujours Abraham qui conduit et Lot qui suit. La Bible dit que c'est Abraham qui prend les décisions et qui écoute la voix de Dieu et qui obéit la voix de Dieu, et Lot l'accompagne toujours. Mais on a bien l'impression dans le récit biblique que Abraham dirige les affaires et Lot se contente de suivre. On en finit même à se demander si parfois Lot a vraiment des convictions. Ou est-ce qu'il suit simplement son oncle parce qu'il pense que c'est la bonne voie, sans avoir lui-même rencontré Dieu comme Abraham a rencontré Dieu. Lot, donc, choisit. Il prend l'occasion qui lui est donnée, et même si dans le récit biblique, c'est sans doute la seule fois de sa vie que Lot a pris une décision, puisque, comme nous venons de le dire, il suit toujours son oncle, et même lorsqu'il va se retrouver à Sodome et Gomorre plus tard, et que l'ange de l'Éternel va lui dire qu'il faut partir vite de la ville parce que la ville va être détruite par le feu envoyé du ciel, Lot n'est même pas capable de prendre la décision. Il faut que l'ange le prenne par le bras et le tire hors de sa maison pour qu'il le suive. La seule décision que Lot a prise dans sa vie, c'est celle de choisir un territoire pour s'y installer sur la proposition de son oncle. Lot, la décision de Lot tient en quelques mots, quelques verbes. Lot regarda, il leva les yeux, il vit toute la plaine, il choisit pour lui et il s'installa dans cette zone. Le problème de Lot, c'est qu'il n'a pas cherché conseil. Il n'a pas dit à son oncle, « Et toi, tonton, qu'est-ce que tu me proposes ? Qu'est-ce que tu me conseilles de choisir ?» Il n'a pas demandé conseil à son oncle, mais il n'a pas non plus demandé conseil à Dieu. Il aurait pu dire à son oncle, « Écoute, tonton, je vais me retirer 2-3 jours pour prier et je vais chercher à connaître la volonté de Dieu parce que c'est une décision importante. » Vous savez, il y a des décisions importantes dans la vie et parfois, la décision de l'endroit concernant l'endroit où l'on va s'installer peut avoir des conséquences importantes. Parfois, elle n'en a pas de manière particulière parce que on peut s'installer dans tel ou tel quartier de Paris, par exemple, et cela ne changera pas grand-chose à notre vie. Mais parfois, certaines décisions de ce genre peuvent avoir des incidences importantes. Pour Lot, c'était une décision capitale, comme la suite de l'histoire le montre. Lot n'a ni consulté son oncle, ni consulté Dieu. Nous lisons par exemple dans la Bible que le roi David, lorsqu'il devait prendre des décisions, consultait toujours Dieu. D'ailleurs, il y a une expression dans la Bible qui revient tout le temps. David consulta l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire. Rien de tout cela chez Lot. Lot regarde, il voit, et ce qu'il voit lui plaît, alors il le choisit. Et après, et le problème c'est que ne consultant ni son oncle et surtout ni Dieu, il va sans le savoir s'installer dans une zone pour laquelle Dieu a un projet. Mais contrairement à ce que Dieu a dit un jour à Jérémie, « Sache que j'ai pour toi des projets d'espérance et de bonheur. » Pour Sodome et Gomorre, l'endroit où Lot choisit de s'installer, Dieu a un tout autre projet, un projet de malheur. Si Lot avait consulté Dieu en lui demandant par exemple, « Seigneur, que penses-tu ? Est-ce que si je m'installe dans la région de Sodome et Gomorre, c'est bon ?» Dieu lui aurait certainement dit, Lot, J'ai un projet pour cette région. J'ai le projet de la détruire bientôt. » Alors Lot se serait éloigné et serait parti ailleurs. Lot a vu, Lot a choisi, et Lot va subir les conséquences de son choix. L'histoire future de Lot s'inscrit en quelques mots. Tout d'abord, au chapitre 13, au verset 12, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il dresse ses tentes, quand il se sépare d'Abraham, il dresse ses tentes tout près de Sodome. Le texte dit littéralement « en direction de Sodome ». Donc on pourrait dire « dans la banlieue de Sodome ». Et un peu plus loin, nous n'avons pas le temps de lire tous ces textes, un peu plus loin, nous voyons que après s'être installé dans la banlieue de Sodome et Gomorre, Lot va s'installer carrément dans la ville de Sodome et Gomorre. Il va même sans doute prendre une certaine importance dans la ville, puisque il nous est dit que lorsque les anges viennent le voir pour lui annoncer qu'ils vont détruire la ville, que Dieu va détruire la ville, il nous est dit que Lot se tenait aux portes de la ville. Et c'est une expression qui, dans le texte de l'Ancien Testament, signifie qu'il avait une importance dans la ville. Peut-être qu'on dirait aujourd'hui, il était rentré dans le conseil municipal, puisqu'à l'époque, lorsqu'on se tenait aux portes de la ville, cela voulait dire qu'on faisait partie des autorités de la ville. Donc, c'est une installation progressive d'un homme qui, bien qu'étant croyant, n'a pas consulté Dieu sur ce projet et qui va s'installer de plus en plus dans une ville que Dieu s'apprête à détruire. Et la suite de l'histoire de Lot, résumée, donne ceci. Il va perdre son honneur d'une certaine manière, il va perdre ses gendres qui vont croire lorsque Dieu va annoncer qu'il va détruire la ville qu'il s'agit d'une plaisanterie. Il va perdre ses richesses, brûlées dans la catastrophe. Il va perdre sa femme, dont, comme quelqu'un l'a dit, le cœur était sans doute resté attaché à la ville de Sodome. Et il va perdre d'une certaine manière aussi ses filles, qui vont sombrer dans l'immoralité. Et le résultat final, c'est que Lot va s'installer dans une petite ville qui s'appelle Tsoar. La ville de Tsoar, le mot Tsoar, le nom de la ville, signifie ce qui est petit, la petitesse. Et c'est tout un symbole de la vie, de cet homme qui a choisi ce que ses yeux voyaient et non pas ce que Dieu voyait. C'est tout le contraire qui se passe avec Abraham. Lorsque Lot s'en va, au verset 14, nous lisons que l'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, « Lève les yeux !» Tout à l'heure, nous avons vu que, sur la proposition de son oncle, de choisir un territoire, Lot a levé lui-même les yeux. Maintenant, il nous est dit que, pour Abraham, c'est Dieu qui dit à Abraham, « Lève les yeux !» C'est toute la différence. Et lorsque Dieu dit à Abraham, « Lève les yeux !» et de l'endroit où tu te trouves, probablement qu'il se trouvait sur une colline assez élevée. Il lui dit « Regarde vers le nord, regarde vers l'est, regarde vers le sud et regarde vers l'ouest. Tout ce que tu vois, je te le donne. Tout ce que tu vois, moi Dieu, je te le donne. » Pensez un instant à la différence avec Lot qui a choisi de prendre pour lui et qui va tout perdre. Alors qu'Abraham, c'est Dieu qui lui dit, « Regarde, tout ce que tu vois, c'est à toi. Et pas seulement à toi, mais à ta postérité après toi. » Lot n'a rien gagné pour lui-même, il a tout perdu. Il a tout perdu pour sa postérité, et il a même perdu d'une certaine manière sa postérité. Alors qu'Abraham, parce qu'il attend que Dieu lui dise, il attend que Dieu choisisse pour lui. Abraham, à cause de cela, commence par regarder le pays. Oh, certainement qu'il a dû se dire, c'est pas aussi beau que ce que Lot a choisi. Mais il savait que tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu donne est bon. La terre peut paraître aride, peu luxuriante. Mais comme c'est Dieu qui la donne, Dieu a le pouvoir de la faire fructifier. Et d'ailleurs, les Israéliens de l'époque moderne ont montré par leur manière de s'en occuper que cette terre pouvait devenir fertile. Il suffisait de la travailler, comme bien souvent. Alors, ce que Dieu donne, plusieurs leçons sont à tirer de cette histoire. Tout d'abord, ce que Dieu donne, tout d'abord, je dirais, les yeux de Dieu voient tout. Je dis les yeux de Dieu parce que c'est Dieu qui a dit à Abraham, regarde. Avant qu'Abraham voie, Dieu avait vu. En fait, Dieu avait vu même Sodome et Gomorre. Il avait vu ce qu'ils allaient devenir. Et maintenant, il dit à Abraham, regarde, et parce que les yeux de Dieu voient tout. Les yeux de Dieu voient pour Abraham, et ce que Dieu voit pour Abraham, Dieu va maintenant dire à Abraham de le regarder, et Dieu va dire, maintenant cela, je te le donne. Ce que Dieu donne est toujours bon. Ce que Dieu donne est toujours durable. Ce que Dieu donne porte toujours du fruit. Et ce que Dieu donne dure à jamais. C'est toute la leçon de cette histoire où nous voyons deux hommes se séparer, l'un choisissant ce qui lui paraît beau et l'autre choisissant ce qui paraît beau aux yeux de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message, j'ai donné le titre, Les yeux de l'homme et les yeux de Dieu. Si nous cherchons à voir ce que Dieu voit et ce que Dieu donne, et si nous cherchons à avoir cela, nous serons toujours bénis, mais si comme Lot, nous cherchons à nous accaparer de ce qui nous paraît beau aux yeux de l'homme, nous risquons de tout perdre. La vision que Dieu nous donne, la vision que nous avons, est déterminante pour l'avenir. Si ce que nous voyons, nous le prenons parce que cela nous paraît beau, nous risquons de courir au désastre. Mais si nous savons toujours faire confiance à Dieu et attendre que Dieu décide de ce qui est bon pour nous, et si nous lui faisons confiance dans ce domaine, Dieu ne refusera jamais de nous répondre. Que le Seigneur nous aide à tirer la leçon de cette histoire et à être des hommes qui comptent sur Dieu, qui s'attendent à comprendre ce que Dieu veut pour nous et que Dieu puisse nous bénir tous. Amen.